Bonjour à tous, j'espère que vous passez un très bon samedi matin en écoutant Art District. C'est Julie Chaise-Martin et je vous propose d'écouter tout de suite Hors des cadres, l'émission consacrée aux expositions et événements d'art urbain et de street art. Arrivé au quatrième étage de l'immeuble du Perchoir dans le 11e arrondissement de Paris, au 14 rue Crespin du Gasque, il y a beaucoup de monde et beaucoup d'œuvres d'art. J'y ai découvert les locaux qui abritent la collection d'art urbain Spray, une collection qui a pu voir le jour grâce à un club de passionnés de street art réunissant des entrepreneurs et des experts du marché de l'art. Cette collection qui ne cesse de s'enrichir et d'attirer de nouveaux associés dans sa communauté a vocation à faire rayonner la scène d'art urbain contemporain actuel et à créer un réseau d'amateurs. Deux des six fondateurs, Philippe Dangean, collectionneur et marchand d'art, et Christophe Rioli, président d'Art5, société de conseil en acquisition et en vente d'œuvres d'art, m'ont expliqué ce nouveau concept.
Christophe Rioli, bonjour. J'accueille également Philippe Dangean et tous les deux, vous êtes parmi les fondateurs de Spray, qui est un club d'associés amateurs de street art. Enfin, vous allez m'en parler, vous allez m'expliquer le concept. Vous êtes en tout cas tous les deux passionnés d'art, passionnés surtout d'art urbain. Et ici ce soir, eh bien, on est à l'espace de coworking qui héberge justement la collection Spray que vous essayez d'enrichir avec toute votre passion et toute la démarche qu'il y a derrière ce concept. Philippe Dangean, vous pouvez peut-être commencer par nous expliquer c'est quoi le concept Spray.
Le concept Spray, c'est de mutualiser des envies de collection, des envies d'avoir des œuvres, de rencontrer des artistes, de s'approprier l'art urbain, avec des moyens qui sont pour la plupart du temps un petit peu limités, parce qu'on ne peut pas acheter tous les artistes qu'on aimerait avoir, toutes les œuvres, on n'a pas forcément la place, même de façon très pragmatique. Donc ça a été l'opportunité avec six fondateurs de créer Spray et de dire, on va mutualiser nos moyens financiers, nos moyens connexion, relations avec des galeries, avec des artistes, pour bâtir une collection partagée, dont on pourra avoir la jouissance en prenant des pièces chez nous, qui est une collection qui est présentée ici dans ses bureaux, dans l'immeuble du Perchoir, qui a aussi une collection qui a vocation à vivre à l'extérieur, à être prêtée pour des événements, pour des foires d'art urbain, pour des musées. Donc vraiment la faire vivre, et puis aussi associer, parce que c'est quand même l'ADN du street art et puis le fait de pouvoir avoir une toile, des artistes. Donc on convie régulièrement les artistes qui peuvent intervenir in situ dans les murs ou qui viennent lors de vernissages pour présenter un petit peu leur travail et puis permettre de diffuser encore plus le type d'œuvres qui sont amenées à réaliser. Des associés qui font partie d'une même société, la société Spray, et pour laquelle trois personnes sont dédiées à l'achat d'œuvres. On challenge les prix parce que mieux on achète, plus on pourra acheter d'œuvres. On recherche aussi des artistes peut-être moins connus. Il y a une pièce d'un artiste équateur qui doit arriver prochainement. Et donc, cette collection est partagée. Chacun a mis un même ticket d'entrée. Et puis, on achète effectivement de façon partagée, commune. Et cette collection appartient à tout le monde. Aux 19 associés en ce mois de juin 2017 qu'on a.
Donc, des fondateurs amateurs d'art, mais qui viennent de quel domaine C'est quoi les profils des fondateurs et des associés
Alors les associés fondateurs, au départ, il y a deux marchands d'art, galeristes, collectionneurs, qui sont Philippe Dangean et moi-même Christophe Rioli. Et les quatre suivants sont des chefs d'entreprise, entrepreneurs, passionnés d'art ou pas d'ailleurs, mais qui avaient envie de créer quelque chose de nouveau autour de l'art contemporain urbain. Et l'idée a germé, a fait son chemin, et on a décidé à 6 de créer cette collection d'art urbain Spray, qui a vu le jour il y a un an maintenant. Et on a accueilli il y a quelques mois 14 nouveaux collectionneurs associés, comme on aime à les nommer, parce que ce sont vraiment en premier lieu des collectionneurs et en même temps ils sont associés. Et l'apport qu'ils font en capital de la société Spray nous permet d'acquérir de nouvelles œuvres pour constituer la collection la plus cohérente possible que l'on a pour but de créer.
Alors justement, le capital de Spray, c'est quoi ?
Alors, le capital de Spray, c'est une société à capital variable. Mm-hmm. Pour entrer un peu dans les détails, il y a une SARL qui est la holding, mm-hmm. et une SAS qui, dans laquelle la holding a apporté la première partie de la collection et qui aujourd'hui acquiert les œuvres suivantes. Et chaque associé, c'est très, très basique, amène 10 000 euros, mm-hmm. pour être vraiment très concret sur, mm-hmm. sur l'aspect financier. Et donc la société, le capital de la société varie à chaque entrée de nouvel actionnaire. Et la quasi-totalité de l'apport est dédiée à la constitution de la collection. C'est très important. Les fondateurs, comme Philippe et moi et les autres, ne prenons aucun salaire. Voilà. En fait, on fait ça de manière totalement bénévole, par passion, parce qu'on a envie de partager une expérience, de faire vivre une collection, de
promouvoir un mouvement. D'ailleurs.
Promouvoir un mouvement, exactement.
C'est pas, je pense que ça, c'est pas le
cas. Il y a un côté assez philanthropique, finalement, derrière.
Alors, il y a un côté philanthropique, il est contrebalancé, du moins, par le fait que, bah, effectivement, l'argent qui peut être mis sur des projets, ou la contrepartie financière qui est donnée à des artistes, bah, il y a souvent une contrepartie qui est une œuvre.
Oui, mais ça participe du mécénat d'art, c'est-à-dire quand vous dites promouvoir, c'est aussi le fait que si vous achetez, vous allez pouvoir exposer cet artiste,
le mettre en avant, tout à fait.
Il y a aussi, j'imagine, pas juste le geste d'achat, mais derrière,
non, bien sûr.
Il y a une volonté, voilà, de faire des événements, d'aller plus loin.
On essaye modestement, les locaux dans lesquels nous sommes sont très agréables, mais de sublimer, le terme peut-être un petit peu fort, mais vraiment de mettre en avant le plus possible. On a vu RL qui a fait une intervention il y a quelques mois de cela, complètement immersive sur tout l'espace, où on est au milieu de l'œuvre d'art. Donc voilà, on est sur l'art qui est pour le plaisir des yeux, pour les autres. On ne découpera pas les murs, on lui souhaite une carrière la plus prometteuse possible. Mais là, il y a des murs en plein, en relief, il y a des portes de placard qui pourraient éventuellement être enlevées, mais ce serait compliqué de s'approprier ou d'arracher l'œuvre. Donc c'est aussi, voilà, une démarche d'ouvrir le plus possible.
Alors Christophe Rioli, j'imagine que constituer une collection de street art, c'est comme constituer toute collection, il faut qu'il y ait une cohérence. Comment se fait la sélection des œuvres ? Est-ce que tous les associés doivent être d'accord avec un achat ?
Non, alors heureusement d'ailleurs, parce que ça deviendrait très compliqué. En fait, on a un comité d'investissement qui est constitué de Philippe Dangean, moi-même Christophe Rioli et Benoît Magnier, et on a la main sur la constitution de la collection et les acquisitions d'œuvres. On a voulu ça dès le départ pour pas... C'est humain, mais les gens qui ne connaissent pas le milieu n'ont pas forcément
de choses à apporter. Les plus spécialistes sont là pour guider aussi, voilà, les autres qui sont peut-être un peu plus profanes. Ouais.
Puis on a créé une société dans laquelle on a réparti les tâches. On est six fondateurs, trois s'occupent de la gestion, des services, de l'arrivée des nouveaux actionnaires, et trois s'occupent de l'investissement, la constitution de la collection. Après, pour la collection la plus cohérente possible, on a une ligne de conduite qui est de sélectionner les artistes les plus représentatifs de l'art urbain et les mouvements les plus représentatifs de l'art urbain. Ce qu'on s'attache à faire, ce qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui et qu'on continuera à faire avec l'entrée des actionnaires suivants.
Alors, combien d'artistes vous avez dans votre collection aujourd'hui à peu près, hein, de...
Alors, on a une quarantaine d'œuvres aujourd'hui et 26 artistes différents.
Philippe Dangean, vous voulez peut-être justement aussi dire un mot sur cette collection ?
Ben, on tâche à la fois, donc c'est multi-support, parce qu'il y a aussi bien des travaux sur bois, des travaux pochoirs, des travaux photographiques, des travaux de collage, des travaux avec du graphe au sens le plus absolu du terme, d'autres sur planches de skateboard. Donc vraiment, on essaye d'aller un petit peu dans tous les registres. Je réfléchis un instant sur ces 26 artistes. Je ne crois pas qu'on ait d'artistes féminines pour l'instant.
Il y a Eyes.
On a deux pièces d'une artiste, tout à fait, une très belle artiste féminine. D'une artiste, mais on va essayer effectivement de finir un petit peu plus la collection. Et puis, voilà, ben on va regarder un petit peu du côté de l'Amérique du Sud, peut-être. Les gens aussi veulent un petit peu gérer le dépaysement. Donc, on est en regard sur les artistes d'Iran, par exemple, comme le couple Icy and Sud, qui travaille à Brooklyn maintenant. L'idée, je pense que c'est les gens qui ont rejoint Spray, c'est aussi qu'on leur raconte une histoire, hein, pas pour les bercer, mais voilà, dire bon, ce que j'ai vu dans la rue, ben, je sais que je l'ai en collection sur un support différent, ou je vais au contraire découvrir des artistes dont je vais pouvoir tâcher de m'approprier le travail en les rencontrant. C'est le but du jeu des réunions qu'on peut être amené à faire ici à peu près sur un rythme de trimestriel. Mais voilà, au travers d'une animation, on a des groupes WhatsApp, on a des choses. Enfin, on essaie de faire vivre un petit peu cette collection et qui est un côté un petit peu défricheur, découvreur.
Alors, faire vivre cette collection, vous étiez d'ailleurs à la Urban Art Fair, vous en avez parlé tout à l'heure, alors expliquez-nous, parce que vous étiez partenaire, c'est quand même intéressant.
Eh bien, la Urban Art Fair, qui est dirigée par Yannick Boesso, a voulu, pour sa deuxième édition, faire un programme un peu hors les murs. Donc, on était au Carreau du Temple, mairie du 3e, et puis ils ont voulu sortir un petit peu hors les murs, et notamment proposer le fait de voir une collection privée, la Spray Collection, donc, qui était ouverte au public pendant 2 soirs. Et puis il se trouve que l'immeuble dans lequel nous sommes, un très beau rooftop qui est le Perchoir, qui était le lieu des soirées post-Urban Art Fair, notamment la soirée du samedi soir. Et donc on a accueilli dans nos murs, c'était assez amusant, j'irais presque émouvant, 200, à peu près 200 personnes, une vingtaine de galeristes majoritairement parisiens, des artistes qui ont vu leurs œuvres, je pense à Kuka notamment, qui étaient ravis de voir leurs œuvres en situation, qui sont même photographiées, qui ont Instagrammé, qui ont retweeté. Enfin...
Alors justement, pour le futur, puisque Spray, c'est quand même récent, Christophe Rioli.
Ça a un an.
Ça a un an, donc un beau démarrage. C'est quoi les objectifs prochains?
Les objectifs prochains, pour aller un peu dans les nombres, on a une quarantaine d'œuvres aujourd'hui. On vise toujours la centaine pour se dire voilà à quel moment on va pouvoir avoir une centaine d'œuvres, sachant que ajouter 60 œuvres supplémentaires, ça va nous permettre, c'est pas pour arriver sur un chiffre rond, mais ça va nous permettre encore d'avoir une collection plus significative, d'aller vers des artistes étrangers qui sont peut-être pas encore extrêmement connus en France, mais qui sont significatifs dans leur pays et dans l'histoire de l'art urbain mondial. Donc l'idée, c'est vraiment, et c'est notre ligne de conduite avec Philippe notamment, c'est d'avoir l'une des plus belles collections d'art urbain possible en France. C'est notre vocation. Et je rebondis sur ce que disait Philippe tout à l'heure, les artistes, on a pu le constater, c'était un peu notre crainte au début de se dire comment ils vont percevoir, notamment pour Philippe et moi qui sommes marchands d'art, galeristes, qui sommes dans le marché, comment les artistes vont percevoir la collection Spray à laquelle on participe en premier lieu, et comment et quelle va être leur réaction quand on va leur expliquer qu'on a acquis leurs œuvres soit directement, soit auprès de galeristes, soit aux enchères. Et on a eu, et c'est génial, pour moi c'est une grande satisfaction, lorsqu'on expliquait aux artistes, tiens, en fait, cette œuvre qui était aux enchères en Belgique ou en Suisse, c'est nous qui l'avons achetée par la collection Spray, l'artiste se dit, ah ben super, je suis très content qu'elle soit chez vous, quelque part, en filigrane, on se rend compte qu'il se dit, elle est dans un bel écrin, comme disait Philippe tout à l'heure, elle est entre de bonnes mains. Et ça, pour nous, c'est peut-être la première des satisfactions.
Et puis, alors, le chiffre de 200, effectivement, sera un graal à atteindre, mais également, on a vocation à tourner, à faire prêter ses œuvres. Donc on est en relation effectivement avec différents musées qui ouvrent en Europe. On a volonté, on verra comment ça se transforme au fil des semaines ou mois à venir, on a volonté de prêter ses œuvres, parce que nous, on n'est pas sur une démarche égoïste d'enfermer dans un coffre-fort une œuvre d'art.
J'allais vous poser la question, est-ce que potentiellement un lieu dédié...
Alors, un lieu dédié uniquement avec la collection Spray, je pense qu'on n'en est quand même vraiment pas là. Ça peut être un objectif à moyen ou plutôt long terme, mais prêter effectivement des œuvres pour des rétrospectives, pour des biennales, pour des expositions, pour des musées, ça c'est quelque chose qu'on souhaite fortement.
Mmh. Et, ce qui permettrait effectivement de rendre ces œuvres visibles dans des cadres
encore plus.
Aussi,
et donc la boucle est bouclée, parce que ce sera encore plus vertueux pour les artistes qui feront partie de la Spray Collection. Donc c'est effectivement quelque chose auquel on va s'employer ces prochaines semaines.
Alors, une toute dernière question, quel est l'artiste qui vous manque absolument et que vous voudriez absolument avoir dans votre collection? J'imagine que tout collectionneur a comme ça un rêve. Christophe Rioli.
Alors, c'est pas forcément mon rêve, mais je pense le rêve des collectionneurs d'art urbain aujourd'hui, et notamment pas forcément de ceux qui connaissent le mieux l'art urbain, mais ceux qui le connaissent un petit peu. On va aller vers le plus connu, le plus mystérieux d'entre eux d'ailleurs, Banksy. Voilà, aujourd'hui on n'a pas d'œuvre dans la collection. C'est pas forcément vers lui qu'on a voulu aller au départ, d'ailleurs c'est vrai. Hein. Parce que les prix sont très élevés, parce qu'il y a beaucoup d'œuvres, en tout cas pour les éditions sur le marché. Mais voilà, pour citer quelqu'un que tout le monde va connaître, oui, on peut dire Banksy. On a d'autres idées derrière la tête, mais qui sont plus pointues, mais bon, disons Banksy en tout cas.
Et alors peut-être aussi, juste pour finir, faire une sorte de catalogue des œuvres, peut-être vous l'avez déjà fait, alors, un livre par exemple.
On a pour l'instant sur le site internet qui est dédié au, enfin qui a deux niveaux, mais dont l'un est dédié aux associés collectionneurs. On a tout un recueil des œuvres acquises par Spray. Après, on
quelques
pourra.
Quelques noms d'artistes peut-être pour évoquer aux auditeurs quels sont les artistes.
Alors, on a des œuvres d'Okuda, de Pantonio, de Speedy Graffito, de Seth, de Bolt, de Joe Urato, de Erel, on l'a vu tout à l'heure, de Le Valet, de Brusque, de Griwan. On a aujourd'hui une collection de Philippe Charroux. De C215, exactement. Donc on a, voilà, on a une collection aujourd'hui qui...
Des grands noms
du street art français et international, de chez Parte-Ferret.
Bien sûr, oui.
Donc voilà.
Peut-être le plus connu.
Mais des clins d'œil aussi, avec des petits originaux très sympas de Combo, qui avait fait son fameux Coexist à l'issue de l'événement tragique à Paris. Et on a une petite toile, et ça, c'est une pièce qui a été achetée 250€. Donc l'art urbain est aussi accessible. C'est la moins chère de toutes les pièces qu'on a, mais voilà, et qui est un petit peu le clin d'œil qu'on a. Mais voilà, on peut rentrer vraiment sur tous les niveaux. Bon, plus on est vers du qualitatif, plus on est sur des formats type format muséaux, plus c'est cher de fait, mais on peut aussi, pour quelques centaines d'euros, se faire plaisir.
Merci à tous les deux. On va terminer sur cette note hein, de dire qu'effectivement, même quand on est passionné et qu'on a une petite bourse, on peut s'acheter des belles œuvres d'art urbain. Merci à tous les deux. Donc Philippe Dangean et Christophe Rioli, vous êtes donc fondateurs. Enfin, il y a 6 fondateurs, mais vous êtes donc 2 fondateurs de Spray.
Et puis on vous encourage à aller sur spray-collection.com pour voir le site, pour en découvrir, en apprendre un petit peu plus.
Merci, on va y aller, merci beaucoup. Erel, bonjour.
Bonjour.
Ravie d'être à tes côtés aujourd'hui. On est chez Spray, hein, on peut dire ça comme ça. On est dans un immeuble parisien au 4e étage. Et ici, eh bien, c'est un groupe de collectionneurs et d'amateurs d'art qui présentent les artistes qu'ils veulent mettre en valeur. Erel, aujourd'hui, tu es là ce soir. Donc, tu fais partie de ce groupe d'artistes d'art urbain qui a été sélectionné hein, par ces amateurs d'art. Ouais. Raconte-nous justement comment tu as fait la rencontre de Spray.
Donc, la rencontre de Spray, ça s'est passé par le biais notamment de Art 42, de Nicolas Logéro et de Philippe Dangean, mm-hmm. qui est collectionneur, qui travaille dans les locaux de Toile.
Donc tu es exposé à Art 42.
Et je suis exposé à Art 42 et sur un événement, donc la Nuit Blanche. Okay. C'était donc Philippe Dangean qui était le régisseur, qui s'occupait de nous, quoi, de tous les artistes, qui s'occupait de qu'on puisse bosser dans de très bonnes conditions. Et donc on s'est beaucoup fréquenté sur cet événement et puis on se connaissait déjà et par la suite voilà, il s'est intéressé à mon boulot et Spray s'est intéressé d'autant plus à ce que je faisais. Et c'est comme ça aussi que j'ai pu faire une peinture directement dans les murs des locaux donc de 12 et par extension de Spray.
Alors tu disais que ta signature était dans tes œuvres.
Ouais.
Parce qu'en fait tu travailles un peu sur un motif qu'on retrouve qui est un peu automatique en fait dans ton œuvre. T'as ouais, commencé donc, comme ça, ça fait longtemps que tu travailles ce motif ?
Ouais, ça fait un petit moment, ça vient d'une envie de glisser du tag, du graffiti, du tag, et vraiment du tag de la signature, de glisser de cet univers-là vers de l'affichage. Parce que moi dans l'affichage, ce que j'aime beaucoup, c'était la technique et le contraste qu'on peut avoir avec les murs sur lesquels on pose, et notamment par ce contraste de matière qui peut être très lisse sur une affiche et au contraire très texturé sur un mur. Et ensuite, l'inconvénient que moi je trouvais dans l'affichage, c'est le format. Donc format carré, format, enfin peu importe, en tout cas un format.
C'est-à-dire que tu étais contraint à chaque fois finalement de faire une lettre dans un cadre limité.
C'est ça, et
limité.
Du coup, ouais, limité aussi par l'échelle. Bon, même si on peut aller très loin en utilisant des traceurs, etc. Mais bon, c'était pas un univers qui, moi, me parlait. Et comme j'étais touché par des boulots, notamment de Stack, de Saucisse, d'autres artistes comme Zeus qui ont travaillé avec une sorte de logotisation de leurs interventions.
Ça t'a influencé ?
Ça m'a beaucoup influencé dans l'idée de déconstruire mon tag, enfin, d'arriver à le schématiser et à en créer une sorte de logo.
Parce que ton tag à la base, si tu peux nous le décrire rapidement, c'était quoi ?
C'était une signature, hein, comme il y en a beaucoup. Mm-hmm. Et par contre, assez vite, je faisais un rond autour, ce qui permettait un petit peu de sortir, on va dire, du lot, enfin, même s'il y en a beaucoup qui le font. Mais du coup, quand il y a un mur avec plein de tags, il y en a un qui va avoir un rond autour, il va un petit peu sortir. Et donc l'idée, c'était de comment est-ce qu'on peut créer vraiment un logo. Et finalement, dans le tag, on parle qu'au tagueur, une envie de parler aussi aux gens, quoi, pas forcément aux tagueurs, donc. Et le fait d'avoir une forme simple, ça parle forcément à tout le monde. Un peu comme...
Voilà, t'es allé dans la simplification, la géométrisation aussi de la forme.
C'est ça.
Et une forme qui se répète à l'infini.
C'est ça.
Cet infini, c'est quelque chose, j'imagine, qui est important pour toi, parce que finalement... ton motif, voilà, il se décline et il peut envahir tout un espace sans limite, justement. Là.
C'est ça, et sans limite de format. Et c'est là où on revient à garder quelque part l'essence du tag, mais en changeant complètement la technique. Donc je travaille à l'adhésif, ce qui permet aussi un côté éphémère de la pièce. Et,
à l'adhésif, c'est quoi exactement ?
C'est de l'adhésif, du stickers, quoi.
Tu peins...
Non, c'est vraiment du stickers, colle des autocollants, quoi. Et qui sont découpés donc à l'emporte-pièce, qui permet de les avoir dans la poche. Mm-hmm. Et de ne pas se trimballer avec un seau de colle, un balai, etc. Donc je les ai vraiment dans la poche et je peux intervenir absolument quand je veux, où je veux, et de manière plutôt furtive, puisqu'une fois que c'est fini, c'est impossible de savoir si ça a été fait à l'instant ou si ça date d'hier, contrairement à la colle qui peut être encore fraîche.
Est-ce que c'est toujours du noir, du blanc, du gris ?
Pour le moment, toujours du noir et du blanc. Déjà parce que le noir, le blanc, ça permet de bosser sur tous les supports, puisque dès qu'on a, enfin, pour jouer du contraste, il suffit d'avoir soit plus foncé, soit plus clair, quoi. Et ensuite, parce que la couleur, j'y viens tout doucement, mais je veux que ça apporte quelque chose. Je veux pas que ce soit juste décoratif ou parce que c'est plus, comment dire, plus visible. Je veux vraiment travailler la couleur. Donc j'y viens tranquillement en m'appuyant sur les boulots de Jean-Philippe Lenclos. Alors, le travail de Jean-Philippe Lenclos, qui a fait un bouquin qui s'appelle Couleurs de France, notamment, pas que, et qui va analyser les couleurs dans les villes. Donc il fait tout un échantillonnage de la couleur d'une ville, par exemple, en regardant les peintures les plus utilisées, les peintures qui vont être certainement dictées par les bâtiments de France et par l'histoire de la ville, les pierres ou la brique, ou justement donc tous ces matériaux qui sont utilisés et qui correspondent et à l'endroit où la ville a été construite, et donc à l'histoire de la ville. Et qui va créer comme ça toute une gamme de couleurs, toute une gamme de teintes. Et ensuite, à partir de ces couleurs-là, ça devient des recommandations, je crois, pour les urbanistes ou pour les architectes. Et moi, j'aimerais bien récupérer ce principe-là, donc de s'inspirer de couleurs de ville, donc finalement de contextualiser la production et d'arriver comme ça à travailler la couleur par un contexte géographique.
Donc, tu as à cœur de recréer l'identité d'une ville avec ton regard en fait d'artiste, d'essayer de...
Pas de recréer l'identité d'une ville, mais plus de m'inscrire dans l'identité de la ville. Mm-hmm. Puisque moi, je mettrai toujours mon motif, étant donné que c'est ma signature. Mm-hmm. Donc après, je la compose, mais c'est comme ça qu'on me reconnaît. C'est aussi pour cette raison. C'est comme le tag. Moi, je viens du tag, et il y a cette problématique de l'identité, où on vient toujours à coller son identité. Mm-hmm. Maintenant, en essayant d'aller un peu plus loin, de travailler autrement, voilà, la couleur et l'inscription dans le contexte géographique, comme je le disais, c'est une manière de le faire, quoi. De garder son identité, mais quand même de fusionner avec l'endroit, en tout cas de s'y inscrire.
Alors pour le moment, c'est des collages. Est-ce que tu fais des sculptures, par exemple ?
Sculptures, pas encore. Ça va venir, je pense. J'ai des idées, mais bon, il faut du temps.
Est-ce que c'est un motif qu'on verrait bien
en volume, ouais.
En volume, oui.
Ça peut être en volume, ouais.
Et alors, bon, évidemment... t'es un artiste d'art urbain, tu nous as expliqué que t'aimais être inscrit dans l'urbanisme, dans un territoire, dans un espace urbain. Où est-ce que tu vas justement peindre, enfin coller, ouais. Et est-ce qu'on peut te voir dans des lieux urbains?
Donc, bah, pour les collages, un peu partout où je vais.
Oui, c'est-à-dire
donc, j'en ai...
Après, c'est plutôt en région parisienne?
Non, j'en ai collé à Marseille, je suis avignonnais, donc j'en ai collé à Avignon. J'habite à Lyon, donc je commence à en coller un peu à Lyon, mais depuis peu. J'ai étudié à Saint-Étienne, donc il y en a aussi à Saint-Étienne. J'ai un petit peu vécu à Bordeaux, donc il y en a un tout petit peu à Bordeaux qui reste. Et après, quand je fais des voyages, je suis allé à Berlin, à Prague.
Est-ce que c'est des zones désaffectées ou est-ce que c'est...
Non, moi c'est dans la rue.
Dans la rue, ouais. T'as une autorisation?
Non, mais c'est l'intérêt de l'adhésif. C'est que justement, je peux le faire vraiment quand je veux tout le temps. Et au pire, on peut un petit peu négocier si, si on se fait avoir, quoi.
Et est-ce que t'as aussi investi des lieux donc avec là une autorisation, comme ici à la Galerie Spray? Est-ce que t'as fait d'autres endroits comme ça?
Donc ouais, alors à Spray, c'est particulier, c'est une commande, donc on est dans totalement
bien
autre
sûr,
chose hein, quand même.
Ça, c'est différent, oui.
Après, récemment, j'étais au Calive, donc j'ai fait une façade à 7. Donc, qui maintenant sera visible jusqu'à ce qu'elle perdure. Mm-hmm. J'avais fait un mur à Mulhouse, mais sur le mur de Mulhouse, donc comme c'est une association, le mur change. Bon, il y a été pendant un mois l'année dernière en juillet, donc il n'y est plus. Aux États-Unis, dans l'école 42, mais là encore c'est autre chose puisque c'est à l'intérieur des murs. Donc c'est entre la commande et l'intervention, même si on est généralement assez libre dans ce qu'on fait. Mais c'est un autre travail en intérieur parce qu'on va jouer sur d'autres codes, on va essayer de jouer avec les reliefs, de jouer avec le volume de la pièce, avec l'ambiance, avec la fonction. Puisque dans les locaux de Spray, on est donc dans des bureaux. Là, j'ai pas travaillé en noir, je travaillais en gris. En gris et en jaune qui ont été les couleurs sélectionnées par l'architecte d'intérieur qui a fait donc toute la décoration. Donc j'ai gardé ces teintes-là une fois de plus pour m'inscrire dans le bâtiment. Et ensuite le gris aussi pour pas avoir une surface trop oppressante pour ceux qui bossent et pour pas trop saturer l'espace.
Oui, c'est quand même un espèce de travail.
C'est ça, ouais. Je voulais vraiment que ne pas les oppresser, c'est un peu le mot, quoi.
Alors moi, quand je regarde ton motif, tu vas me dire si ça a aucun rapport ou s'il y a un petit rapport. Voilà, moi j'ai quelques références en histoire de l'art et je me dis, tiens, ça me fait penser aux mosaïques un peu presque orientales.
Ouais, certains motifs. Certains motifs y ressemblent parce que oui, on est sur ces formes géométriques. Ah, des fois ça ressemble à du mouche arabien. Donc c'est pas du tout mes inspirations, mais ça ressemble, moi...
Tout bientôt, tes sculptures qui peuvent faire office pourrait, de moucharabier ou pourrait, de paravent.
Ouais, ça pourrait aussi, ouais. Mais après, moi, c'était surtout dans cette idée de... Au tout début, ce que je défendais, c'était le tag en tant qu'art. Pour moi, les taggers, enfin tout ce qui est tag, il y a une vraie recherche de typographie. Donc c'est un vrai travail pour moi. Que j'estime et que je continue à observer et qu'il y a vraiment des tags et des taggers qui ont un niveau assez hallucinant et une recherche typographique vraiment, vraiment belle, quoi. Et ensuite, moi, dans la rue, je trouve que ça apporte un côté vivant, quoi. Notamment, je prends souvent l'exemple de Marseille au cours Julien où c'est quand même plutôt saturé voire fracassé de tags. Bon, il y en a qui vont pas aimer, moi ça me plaît, ça me parle et je trouve que ça donne à la rue une vitalité, enfin ça montre que les gens en fait s'emparent aussi de la rue, quoi. Et c'est ça, c'est un peu cette essence là que je voulais conserver, et dans mes motifs c'est ce côté organique qui du coup a émergé au fur et à mesure. Et je me suis rendu compte que ça ressemblait aussi à de l'écriture topologique en chimie organique. Alors moi, j'ai pas fait S ni rien, mais d'où aussi cette possibilité,
moléculaire.
Je pense, de moléculaire. Ouais. C'est pour ça aussi que je parle de contamination. Alors les molécules, la contamination, c'est pas tout à fait la même chose, mais j'utilise un peu un jargon, un peu comme je m'arrange un peu avec, hein, mais je parle de contamination, de viralité, et qui sont en fait des termes et des notions qui sont issus du tag, enfin qui sont pas issus du tag, mais qui sont l'essence du tag à mes yeux. Par le biais des collages, j'essaie aussi d'attirer le regard des gens, en positionnant dans des interstices, en jouant sur l'échelle. Par exemple, dans le métro, où des fois il y a l'adhésif qui est collé sur l'habillage des métros qui va être déchiré, là je vais mettre des motifs tout petits qui vont sortir de ces fissures. Là on est plus à, comme on est assis et qu'on va avoir le visage collé, on a un autre rapport à la pièce dans la rue. J'ai un motif avec une taille un peu plus grosse, et là récemment j'en ai fait encore un autre Encore une échelle un poil plus grosse qui est plus pour des avenues finalement. Donc j'essaie de varier l'échelle aussi en fonction du contexte.
Oui, là on voit bien par exemple sur cette planche l'échelle avec donc un jeune homme qui est debout et effectivement là tes motifs sont vraiment monumentaux derrière lui.
Oui, là un motif il va faire je sais pas 2 mètres de haut quand dans la rue ils font 25 cm et quand des fois ils en font plus que 5 ou 10. Et là, oui, le travail aussi du mur dont on parlait, c'était à Mulhouse, où j'ai travaillé la contreforme. Donc, c'est encore autre chose. Ça se voit pas forcément, mais parce que le résultat est plus ou moins la même chose. Mais au lieu de peindre les motifs, j'ai peint les contreformes. Pour moi, ça se rapprocherait un peu d'un travail de typographie. Donc là encore, je suis pas typographe, mais quelques notions sur quand on parle d'approche, au niveau des lettrages, on regarde aussi les contreformes dans le dessin de la lettre. Et là, on retrouve un peu ça. Il y a certains motifs, comme celui-là, là, qui peut faire penser à une lettre. C'en est pas une. Mais c'est une démarche que j'aimerais approfondir et essayer comme ça d'utiliser des codes. De la typographie, et ce serait une certaine manière, une forme de boucler la boucle avec l'éloignement de la typographie par la déconstruction. Et maintenant, essayer de retravailler ça, mais plus par l'abstraction, mais par la contreforme, par les jeux de plein, déliés. Donc c'est quelque chose que j'aimerais approfondir.
Voilà, donc c'est un travail évidemment toujours en évolution. Enfin, en tant qu'artiste, j'imagine que tu cherches à faire évoluer ce motif. Justement, quand est-ce que tu as commencé? Comment t'es tombé dans le tag, RL?
Moi, j'ai commencé petit quand j'étais en fin primaire, début collège, par mimétisme, par mon beau-frère qui faisait tout simplement des tags. Pour le coup, tag, marqueur, truc classique. D'accord. Parce qu'il y avait ça qui traînait dans la chambre de ma sœur et que je me suis mis à les reproduire, quoi. Et puis petit à petit, après, j'ai commencé à taguer, à graffer, à aller sur les terrains. Et puis ensuite avoir d'autres choses, d'autres boulots, d'autres artistes et à m'en éloigner quelque peu, quoi.
Donc c'était le côté interdit qui...
Peut-être, mais c'était vraiment de voir, je pense, par admiration en fait, de voir ça, de voir mon beau-frère faire ça. C'est ce qui m'a donné envie.
Et aujourd'hui, par contre, t'es sur une vraie démarche artistique.
Et maintenant, c'est autre chose. Maintenant, c'est vraiment autre chose. C'est autre chose. Et après, je fais des études de design. Où là aussi on apprend d'autres notions de construction comme en graphisme, les notions de mise en page, de grille, d'équilibre. Donc là c'est une recherche d'équilibre sur la peinture qui est ici sur un format de bois. J'ai construit toute ma grille en faisant un assemblage de bois qui dessine des lignes. Et c'est sur ces lignes-là que je vais m'appuyer pour construire ma composition. Et donc ensuite c'est une recherche d'équilibre, quoi. D'équilibre entre les pleins, entre les vides et toujours avec ce motif qui est mon identité, quoi.
Alors un petit mot sur Art42, première école... Le premier musée de street art. Donc, tu es représenté au mur de cette école.
Ouais.
Est-ce que le mot musée te plaît quand on dit c'est le premier musée de street art?
Je crois qu'ils l'ont pensé comme un non-musée.
Voilà.
Donc après, c'en est un parce qu'on est à l'intérieur des murs, mais il a un fonctionnement atypique. Je sais pas, après, c'est comme le mot street art me dérange comme beaucoup, mais en même temps, on n'a pas encore trouvé d'autre appellation.
On peut dire art urbain.
Ouais, art urbain. Ouais. Mais le problème de l'art urbain.
Déjà dit, d'ailleurs.
Et moi, le problème, c'est quand on parle d'art urbain, ça peut me faire penser aussi à des mecs qui crachent du feu et qui font du jonglage, quoi. Ou d'autres choses, hein. Et en fait, c'est d'autres univers qui sont pas forcément. Pas liés, quoi. Alors, je sais pas si c'est dérangeant ou pas, mais du coup, j'ai cette image-là, donc art urbain, je sais pas trop, street. Enfin, voilà. Mais en tout cas, sur Art42, non, c'est une belle initiative et ça permet de rendre accessible et de rendre visible et de faire découvrir à plein de gens, aux enfants. En plus, j'ai vu qu'ils faisaient des circuits pour les enfants. Donc non, je trouve que c'est une belle initiative. Et le mot de musée, c'en est un sans en être un, donc je sais pas. Je sais pas trop.
En tout cas, je pense que c'est un honneur pour toi d'être
Art42,
parce que c'est vrai qu'il y a les grands noms de l'art urbain, mais aussi des artistes plus à découvrir également. C'est aussi la vocation d'ailleurs de Spray, où on est ici ensemble.
Ouais.
Merci beaucoup Eren de nous avoir raconté avec beaucoup de précision, de détails ton travail. Et donc on invite évidemment les auditeurs à taper ton nom, Erel, dis-nous comment ça s'écrit.
C'est E-R-E-2-L.
E-R-E-2-L, donc à te découvrir peut-être d'abord sur Internet et puis ensuite à reconnaître tes œuvres dans la rue ou ailleurs. Merci beaucoup.
Merci.
Commandeur à l'école 42.
Ouais, c'est ça.
T'es quand même élève à l'école 42, tu vois du street art tous les jours. Dis-nous ce que ça t'a apporté finalement. Est-ce que tu t'es intéressé plus à l'art du fait d'avoir des œuvres de street art accrochées au mur pendant que tu travailles?
Alors moi c'est un peu particulier parce que comme je te disais, je suis un peu sensibilisé déjà à ça. J'étudie un peu ça, j'ai fait, enfin voilà.
En général ou au street art?
Ouais, en fait, non pas au street art, enfin oui au street art aussi parce que j'ai toujours habité dans des quartiers populaires et j'en ai pratiqué un peu, j'ai fait un peu de graff aussi à l'époque, tu vois, dans mes jeunes années. Et... Donc ouais, je connais un peu, voilà, et puis j'ai fait des études dans l'art, donc enfin un peu.
Mm-hmm. En fait, c'est quand même assez original d'avoir des œuvres d'art dans les locaux d'une école.
C'est assez original,
c'est même presque unique, je pense. C'est un concept unique à
Ouais. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Bah, moi, je pense que ça stimule énormément d'élèves parce qu'on est dans un milieu où les gens sont pas forcément portés vers ces choses-là. Et...
Tu disais qu'il y avait de tes amis à l'école 42 qui du coup se sont dit tiens c'est sympa ces œuvres et qui se sont intéressés à...
En fait j'en ai même vu, non c'est encore mieux parce que j'en ai vu vraiment bloqué totalement quoi, c'est-à-dire j'ai un pote qui est vraiment... À part tout ce qui est comics et tout, je pense qu'il a pas trop de rapport à l'image, tu vois. Et enfin voilà, c'est pas un grand esthète, quoi, on va dire. Et
on dira pas son nom ici.
On dira pas son nom. Mathias. Et je l'ai vu vraiment, je l'ai vu bloqué devant une œuvre. Vraiment, tu sais, il avait été vraiment touché par la grâce, quoi. Il comprenait pas, il voulait en parler, tu vois. Il était. C'était beau, quoi. Enfin, tu vois. Mais ça nous est tous arrivé, j'imagine, sur une sensibilité artistique. À un moment donné, on a été choqué ou on a été remué par quelque chose, tu vois. Et lui, je sais pas si c'était la première fois, tu vois, mais en tout cas, c'était peut-être une de ses plus fortes fois, tu vois. C'était mignon, quoi, tu vois. Il était là, qu'est-ce que ça t'évoque et tout. Donc, ouais, je pense que ça remue quand même pas mal les esprits. Et on a besoin aussi, parce que c'est chiant, les écoles d'ingé, ils pensent pas trop à ça, quoi. Donc.
Et toi, par exemple, tu disais, on a tous été remués un jour.
Waouh, ah ouais, c'est une question. Toi, du coup, dis-moi, non, parce que ça me laissera le temps de réfléchir, parce que moi, j'ai aucune idée là.
Je t'interview.
Ah, ok.
Je pose les questions.
Ah ouais, c'est un peu traître quand même, d'accord. Ouais, j'étais en discussion tranquille et tout, mais ok. Qu'est-ce qui m'a touché?
Ouais.
Si, en vrai, un des premiers trucs que je me souviens qui m'a vraiment touché, c'est le bruit du scratch. Tu vois, je crois que c'était un album des Fugees, genre The Score, le dernier premier. Enfin, je suis un geek du rap de ouf. Et le bruit du scratch, la première fois que je l'ai entendu, je me suis dit putain, c'est un truc. Ça m'a fait quelque chose, quoi. J'étais limite. Enfin, c'était sensuel, quoi. C'était vraiment, genre, il se passe un truc, quoi. Et voilà, ça, je m'en souviens, ouais. Il y en a sûrement eu d'autres, hein, mais celui-là, c'était un des trucs dont je me souviens le plus. Ouais.
Et donc, plutôt une émotion musicale.
Ouais, c'était plutôt musical, ouais. Et j'ai pas décroché, hein, j'arrive pas à écouter autre chose que du rap aujourd'hui, enfin, et du jazz et d'autres trucs, mais principalement, 80% c'est quand même ça. Et voilà.
Et alors, l'image, par contre, ça te touche aussi parce que tu travailles l'image, t'aimes bien travailler l'image.
En fait, j'aime bien le pouvoir de compréhension que t'as, et du coup, c'est pour ça, moi, je fais un peu de data visualisation avec des technos. Mais c'est parce que voilà, c'est parce que ça me plaît d'expliquer, comme tu le disais toi aussi, d'ailleurs, tout à l'heure. Et j'aime bien ça.
Transmettre, expliquer,
voilà. Ouais, c'est ça, d'arriver à faire comprendre aux gens, montrer sa perception de la réalité, tout ça, je trouve ça cool. Et du coup, l'image, ouais, en ça, c'est bien. Après, j'ai pas choisi d'en faire ma vie et je sais pourquoi aussi, quoi. J'aime pas trop le. Enfin, il y a quand même un paradoxe ici, tu vois. Tout à l'heure, on parlait de l'asso pendant le truc, et tu vois, les mecs qui sont là, ils prennent les trucs de la rue, ils l'amènent ici. Il y a une espèce de confiscation quand même qui s'opère à un moment donné, on est d'accord.
C'est ce que tu ressens.
C'est ce que j'ai ressenti énormément, en tout cas, et ce qui m'a fait quitter aussi tout le délire artistique et tout, parce que je trouvais qu'il y avait il y avait quand même une non-volonté de se faire comprendre, quoi.
Ça, c'est peut-être quand même propre au street art. Les artistes ont besoin de vivre aussi, donc d'un certain côté, on peut quand même dire que.
Ah, tu veux dire qu'ils l'enlèvent de la rue et tout Oui, non, mais bien sûr qu'ils exposent, qu'ils fassent tout ce que tu veux. Mais après, ce que je veux dire, c'est que le monde de l'art est quand même très séparé du peuple, en fait, en général. Et c'est ça qui me fait chier. Et le truc, enfin, le street art, c'est un truc du peuple, tu vois, à la base. Et après, le fait que les mecs, ils en vivent et qui, évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est le monde de l'art que je critique dans son ensemble. Hein. C'est pas juste les street artistes. Enfin, il y a aucun truc là-dessus. Mais juste...
peut-être plus visible pour les autres artistes parce qu'effectivement c'est des artistes à la base.
C'est presque symbolique en fait, je trouve.
Et effectivement aujourd'hui ils rentrent dans les musées.
Ouais, c'est ça.
Et ils deviennent des artistes presque d'art contemporain comme d'autres.
Ouais, voilà, c'est ça. Bah ouais. Mais bon, après voilà, c'est une évolution artistique. Moi je dis pas qu'elle est mauvaise ou qu'elle est bonne, j'ai juste que c'est dommage de se couper des premières du public quoi, du premier public originel et de ce pourquoi ça a marché quoi, c'est-à-dire que c'était quand même je sais pas.
Bon, bah, c'est une bonne critique en tout cas, merci d'avoir donné ton avis.
Avec plaisir, je t'en prie.
Juste une dernière question.
Vas-y.
Parce qu'on est tous un peu curieux de cette école 42 dont tout le monde parle. Mais alors on peut y aller pour voir justement les œuvres de street art, c'est Art 42. On en a beaucoup parlé, le premier musée de street art qui a ouvert ses portes à Paris. L'école 42, c'est quoi exactement? Et toi, tu es commandeur, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est? Ça fait un petit peu templier.
Ça, je l'ai dit.
Ça, non, c'est l'école 42.
Ouais. Ça veut dire qu'on me salue quand je passe dans n'importe quoi. Non, c'est un grade. Mais alors, tout le monde s'en fout, hein, l'école. En vrai, ça n'a aucune sorte de valeur. C'est juste avec ton niveau, tu augmentes de niveau, en fait. Et voilà, t'as un truc sur l'intra, il y a marqué commandeur. Quoi,
c'est commandeur, c'est à quel niveau?
Je crois que c'était niveau 11. Moi, je suis niveau 12 et demi. Et tu finis l'école en fait niveau 16, mais tu peux la finir aussi niveau 21.
D'accord.
Et là, t'es un badass de l'extrême. Je suis pas sûr d'y arriver un jour, mais peut-être on verra.
T'as encore combien d'années
En fait, ça ne se compte pas par année. Mm. Tu as des, en fait, la pédagogie de 42, c'est tout simplement des PDF.
Okay.
Les PDF, ce sont des projets en fait. Et toi, tu prends un de ces PDF, tu dis je vais le faire. Et tu le fais en général avec des amis parce que tout seul, c'est insupportable. Et,
c'est dur.
Très dur, ouais, quand tu fais tout seul, c'est très dur. Et
Tu disais que c'était dur d'y rentrer à l'école 42.
C'est surtout dur d'y rentrer.
Très sélectif, hein.
Ouais, enfin, moi quand je l'ai fait, c'était très sélectif. Hein. Je sais pas si les chiffres.
Et tu l'as fait en 2014 ?
Ouais, je l'ai fait en juillet 2014, j'ai passé ma piscine. Donc la piscine, alors voilà, les étapes pour rentrer à 42, tu veux que je t'explique ou...
Oui. D'accord.
Alors tu as une première étape en fait qui est des tests sur le net qui ressemblent basiquement à des tests. Des espèces de trucs avec des formes comme ça, tu vois, des jeux de logique, c'est des tests de QI déguisés, je pense, je suppose. Et donc là, tu es pris ou pas après cette étape-là. Donc ils prennent 3000 personnes après cette étape-là. Et ensuite, si tu es pris dans ces 3000 personnes, tu es invité à passer un mois dans l'école, un mois complet dans l'école, à faire ce qu'on appelle la piscine. Donc la piscine, tu vas apprendre, en fait, c'est une référence à la pédagogie des GI, en fait, qui doivent à un moment donné faire une épreuve dans la piscine, et c'est le truc, c'est très violent, quoi. Et c'est un peu le délire, c'est-à-dire que, est-ce que tu vas couler, quoi? Et c'est surtout comment tu vas réagir quand tu vas couler, parce que tout le monde va couler à peu près, tu vois, à un moment donné, donc c'est juste, tu vois.
Et, t'as réussi à ne pas couler?
Ah si, je me suis noyé plein de fois, mais moi je suis un acharné, j'ai relevé la tête et voilà, mais si je me suis noyé bien plus que pas mal d'ailleurs. Hein, mais... bon. Alors du coup, alors j'en étais où tu...
Ça c'est la piscine.
Première étape, donc t'as la piscine c'est un mois, voilà, tu apprends à coder, c'est-à-dire moi j'avais jamais codé avant 42, donc tu apprends tout de A à Z. Et ensuite tu es étudiant ou pas, donc il y a 300 personnes qui sont prises par piscine, donc tu es avec 900 personnes au début de la piscine, entre 900 et 1000 personnes, et à la fin tu sais qu'il y en a 300 qui seront pris. Donc à la fin, mais
c'est pire que Hunger Games, quoi.
C'est un peu Hunger Games, mais alors c'est marrant parce que c'est pas vraiment Hunger Games non plus, parce qu'il faut être très collaboratif, parce que sinon tu t'en sors pas, et ils regardent en fait ça, c'est à dire que si je connaissais des mecs qui étaient très très bons et qui l'a joué perso, ou alors qui étaient vraiment des enfoirés, tu vois, ben ils ont pas été pris, quoi. Ils veulent vraiment des gens qui savent travailler en collaboratif, voilà. Et ouais.
Et qu'est-ce que tu veux faire après, Vincent?
Je sais pas. Là, si tu veux savoir, mais il faut pas le dire. Est-ce que tu peux garder un secret ou pas?
Ah bah alors, je coupe.
Non. Et si c'est diffusé dans une semaine ou deux, je m'en fous. Mais c'est juste.
Dans 2 semaines.
Voilà. Alors, en fait, voilà, j'ai candidaté un emploi et là, je suis en attente d'une réponse de cet emploi-là. Donc j'espère être pris et je devrais avoir la réponse dans les jours à venir. Le truc c'est que je me suis positionné sur un autre contrat, c'est pour ça que je te dis.
Tu nous en diras plus
voilà.
Dans 2 semaines.
Mais si je suis pris à ce travail là, eh ben, je suis un des hommes les plus heureux du monde.
Très bien, bah écoute, plein de bonne chance.
Bah, merci.
Et merci beaucoup
aussi
d'avoir joué le jeu de l'interview.
C'était plaisant. C'était plaisant.
Pour nous expliquer tout ça. Merci.
Okay.
À toi.
Merci d'avoir suivi cette émission.
Vous avez entendu Philippe Dangean et Christophe Rioli, fondateurs de la collection d'art urbain Spray. À noter qu'en ce moment et jusqu'au 24 juillet, vous pouvez aller voir l'exposition 7 to 5 organisée au TOC de Marseille, 10 Place de la Joliette, par Christophe Rioli. Vous avez également entendu le street artiste Erel parler de son travail, ainsi que Vincent, étudiant à École 42, qui abrite le musée de street art Art 42 à Paris. C'était Hors des cadres avec Julie Chaise-Martin. Retrouvez cette émission les samedis à 11h, également en podcast sur notre site internet artdistrict-radio.com. Également, retrouvez-nous sur notre compte Twitter artdistrict75 et sur notre page Facebook. Très bon samedi en musique, à notre écoute.